Dialogue entre Congolais présenté par Alain Rung.
Bonsoir. Processus électoral en RDC. Quels sont les enjeux des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011? Pour en parler, nous recevons trois invités. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, CAPAC. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Voilà, il faudrait aussi signaler que nous avons deux analystes qui vont accompagner Radio Capi pendant cette période électorale, comme en 2006, si vous vous souvenez encore. Il s'agit du professeur Eli Kiambokolo, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Il a publié un livre collectif intitulé « Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives ». Professeur Eli Kiambokolo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Komi Toulabor, directeur de recherche au centre de recherche dénommé « Les Afriques dans le monde » à Bordeaux en France. Il travaille sur les problèmes électoraux et prépare un ouvrage sur les fraudes électorales en Afrique. Professeur Komi Toulabor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions, chers auditeurs et internautes. Anasof Lunanga, depuis l'Université du Kenya. C'est grave si on doit songer à la légitimité d'un président de la République qui a moins de 50% de voix. Cédric, depuis Dungu, dans la province orientale, la manière dont le déploiement de kits électoraux se fait, il y a des indices sérieux qui montrent que les élections du 28 novembre pourraient se passer en deux jours. Le respect même de l'organisation des élections à la date prévue est un enjeu majeur. Bienvenue à tous dans votre émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Avant d'aborder notre sujet du jour, vous le savez, la campagne électorale prend fin demain, samedi 26 novembre 2011. Nous allons d'abord en très peu de mots dresser un petit bilan de cette campagne électorale. Bilan somme toute caractérisé par un climat de tension. Pour rafraîchir la mémoire à cet effet, revenons à titre illustratif sur le message lancé par le cardinal Laurent Monsengo au cours d'un point de presse organisé le 10 novembre dernier au centre Lindongé. Laurent Monsengo avait condamné les actes de violence qui frise la barbarie pendant cette période de la campagne électorale. Il avait désapprouvé la manipulation de la jeunesse dans la campagne électorale et avait demandé à ceux qui se sont engagés dans la course démocratique du pouvoir de faire preuve de sagesse et de garantir la paix pour que la population vote en âme et conscience. Suivons un extrait du message du cardinal Laurent Monsengo Passigna dans ses propos recueillis par Askenzig Gatayoro.
Nous sommes tous les jours témoins d'incidents qui étonnent par leur fréquence et leur répétition. L'on se provoque, on s'arme de machettes, parfois de fusils, on casse et on brûle, comme si la fin des élections était de détruire le pays plutôt que de le bâtir. On ne peut que condamner fermement et stigmatiser ces agissements qui frisent la barbarie. Comment ferions-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population? Comment élire des gouvernants qui ne nous donnent pas de garantie de paix, de justice, de vérité et d'amour du peuple? De grâce, rassurez-nous. Rassurez le peuple pour que le peuple vous élise en âme et conscience.
Professeur Bob Kabamba, en dehors de la violence que plusieurs personnalités ont fustigé, il y a également beaucoup d'analystes qui ont relevé l'absence des messages ou des programmes présentés par les candidats pendant cette campagne électorale. Quelle est votre analyse?
Merci beaucoup pour cette émission de ce jour. Effectivement, malheureusement, on peut bien déplorer le fait que au niveau des différents discours qu'on a suivis pendant cette campagne électorale, on n'a pas eu des projets de société qui ont été protégés, qui ont été proposés par les différents candidats. Pour savoir effectivement qu'est-ce qu'ils proposent aux Congolais pour la prochaine législature, pour le prochain mandat. On n'a pas eu non plus de débat sur des enjeux fondamentaux qui concernent la RDC, notamment la question de contrat chinois, notamment la question des pays voisins, notamment la question en fait aussi même de la cohabitation pacifique de différentes communautés à l'issue des élections et aussi de la place de la RDC au sein du concert de nations. Donc il y a toujours toute une série de questions fondamentales qui concernent l'avenir et la place de la RDC ont été quelque peu oubliées et on a plutôt assisté à toute une série de discussions, toute une série de prise des positions des uns et des autres sur des questions, au fait, qui ne répondaient pas nécessairement aux préoccupations de la population. Et ça, c'est au niveau présidentiel. Mais alors, au niveau législatif, on peut aussi regretter que le débat n'a pas pu dépasser le contexte communautaire au niveau des territoires et au niveau des circonscriptions. L'essentiel des débats a été essentiellement de savoir qui sera le mieux pour pouvoir représenter une communauté ou une autre à l'Assemblée nationale. Et cela a été la conséquence de la cause, en fait, de toute série de violences auxquelles on a assisté. Malheureusement, donc, les questions fondamentales qui concernent l'avenir de la RDC ont été quelque peu oubliées.
Merci.
C'est aussi le fait que, bien sûr, quand on analyse le contexte politique congolais, on se rend bien compte que les partis politiques n'arrivent pas à pouvoir canaliser et n'arrivent pas à pouvoir proposer un projet de société.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Evika Mbokolo, il y a intolérance politique, violence et même mort d'homme, mais on se souvient que deux candidats de taille, le président sortant Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi de l'UDPS, se sont croisés par deux fois à Goma et à Butembo. Plusieurs observateurs craignaient que ça ne s'embrase, mais tout s'est bien passé. C'est quand même un élément positif.
Oui, je pense que c'est un élément positif parce qu'on peut dire que pour cette campagne, ça aurait pu être pire et ça aurait pu être mieux. Mais déjà, je dirais que, me semble-t-il, c'est mieux qu'en 2006, notamment le fait que, vous l'avez souligné, à deux occasions au moins, les deux candidats que l'on donne comme les plus importants ont été dans la même ville, ont fait des discours parallèles, ne se sont pas rencontrés malheureusement, donc il n'y a pas eu débat, mais surtout il n'y a pas eu violence. Moi, ce qui me frappe, c'est ça. C'est d'abord, on a vu l'absence de débat de fond à l'intérieur de l'opposition qui va diviser dans une élection à un seul tour. Et d'autre part, l'absence de débat, puisqu'il n'y a qu'un seul tour, entre le président sortant et celui qui serait son challenger. Mais vous vous souvenez qu'en 2006, on avait déjà eu ce problème. Entre les deux tours, il n'y a pas eu débat entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Et en lieu et place de cette absence de débat, il y a eu des tirs de feu à Kinshasa. Cette fois-ci, on n'a pas eu de débat, mais on n'a pas eu non plus de coup de feu à Kinshasa. Je pense que c'est peut-être un léger pas en avant qu'il faut essayer de capitaliser.
Professeur, il y a également, il y a eu mort d'homme, hein, on a déploré l'assassinat du député provincial Marius Gangalé. C'est quand même un élément négatif dans la balance.
Sans aucun doute, à quelques jours des élections, un député de l'opposition qui meurt à Kinshasa, tué par des tueurs professionnels.
Non entièrement identifié.
Identifié jusqu'à ce jour, alors que l'urgence aurait demandé que très rapidement la police démasque ces criminels. Évidemment, ça jette un doute à la fois sur la sécurité des élections et sur la possibilité, la liberté de parole pour les différents acteurs.
Et professeur, il y a beaucoup de candidats qui ont prétexté également le manque d'argent pour battre campagne. Comme il fallait.
C'est sûr que la campagne est devenue une campagne très moderne. On voit que à l'échelle présidentielle, ceux qui n'ont pas d'avion sont donnés perdants d'avance, mais à l'échelle des députés nationaux, on voit aussi que ceux qui n'ont pas assez d'argent pour distribuer les t-shirts, des voitures pour plusieurs voitures pour circuler en convoi,
une bière par-ci, une bière par-là.
Oui, par-là, et peut-être quelques billets de 500 francs sont très mal partis. Et ça, je crois que c'est un vrai problème, parce que les vraies élections dans un pays à construire comme le nôtre porteraient sur des débats d'idées et non pas sur un simple marketing politique.
Professeur Komi, tout d'abord, vous avez également une grande expérience en matière électorale en Afrique. Absence de débat de fond, le débat reste dans un contexte communautaire, comme a dit le professeur Bob Kabamba. Est-ce une particularité africaine?
Non, quand on regarde au niveau mondial, et notre pays de référence, c'est la France, évidemment, on se rend compte que bon, même dans ces pays-là, où la démocratie est supposée développer, et très souvent on en arrive à cette situation que lors d'une campagne électorale, les partis politiques ne développent pas des thèmes sur leur programme, ne mettent pas en avant leur programme, et tout le débat tourne autour de la personnalité, des acteurs personnels et des boules puantes, comme on dit en France. Donc c'est pas une spécificité africaine, mais ce qui fait problème en Afrique, c'est que ceci devient caractéristique du fonctionnement même de la démocratie en Afrique, que à l'intérieur des partis politiques, sans parler même de la période électorale, les partis politiques ne développent pas auprès de leurs militants un discours idéologique, un discours programmatique, et c'est ça qui fait effectivement problème et la spécificité africaine.
Professeur, je reviens à la même question qu'au professeur Elika Mbokolo. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et en Afrique, l'argent, pendant la période électorale, ça joue.
Oui, tout à fait. L'argent, c'est le nerf de la guerre électorale, effectivement. Mais il y a aussi d'autres ressources. C'est l'information. Celui qui est au pouvoir a la mainmise sur l'information, et spécialement dans les pays africains, celui qui est au pouvoir détient tous les leviers de l'information. Les médias d'État, la radio, la télévision sont entre ses mains, et évidemment, peut de temps en temps permettre à l'opposition de s'exprimer, mais tout ceci, quelque part, encore une fois, n'est pas une spécificité africaine, mais tend à être encore une spécificité africaine, d'autant que quand on regarde un pays comme la France, le pays de référence, on voit comment le président actuel, Nicolas Sarkozy, monopolise les médias. Déjà, en tant que ministre de l'Intérieur, déjà, il avait la mainmise sur les médias qui ont fait campagne pour lui. Maintenant, ces médias prennent leur distance. Donc, ce n'est pas une spécificité africaine, mais ça a devenu effectivement notre caractéristique quelque part.
Merci beaucoup. Nous allons revenir à notre sujet du jour. Quels sont les enjeux des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011? À titre pédagogique, je rappelle qu'il y a 11 candidats à la présidentielle, dont 6 candidats de l'opposition, 3 candidats indépendants, dont le président sortant Joseph Kabila, et 2 candidats dont l'appartenance politique n'est pas déterminée. Il y a 32 millions d'électeurs inscrits sur une population de 66 millions d'habitants, 18 864 candidats aux législatives, et le plus grand bulletin de vote du monde compte 56 pages, et c'est dans la circonscription de Kinshasa 4 à Tchango. Professeur Bob Kabamba, quels sont les enjeux des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 pour vous?
Oui, il y a quand même plusieurs enjeux qui se dessinent, mais j'aurais envie, entre guillemets, avant de répondre à votre question, de suggérer au ministre de l'Intérieur de déposer au Guinness Book des records que la RDC a battu effectivement un record en termes de bulletins de vote, 56 pages pour X milliers de candidats. Alors, pour revenir à votre question, il y a plusieurs enjeux liés à ces élections. Le premier enjeu, de mon point de vue, va concerner essentiellement les moyens qui ont été utilisés par les différents candidats au cours de cette campagne. Deuxième enjeu lié au contexte, malheureusement, que l'on va plutôt appeler, ce qu'on va appeler toujours la question de la géopolitique congolaise, en termes d'enjeux au niveau présidentiel. Quand on parle géopolitique congolaise, on se rend bien compte que de toute façon, l'électorat en fonction de 2006, l'électorat est lié à l'espace, à l'aire géographique et à l'aire régionale de différents candidats. Les électeurs en 2006 ont élu leur candidat en fonction de l'aire géopolitique congolaise. Les gens de l'Est ont voté pour les candidats de l'Est, et les gens de l'Ouest ont voté pour les candidats de l'Ouest, et avec aussi une particularité qui concerne le centre. Le centre qui concerne donc les deux provinces du Kasaï. Il y a cette question-là qui est fondamental en termes d'enjeux en matière électorale présidentielle. Et pour ce qui concerne les enjeux au niveau législatif, il y a 18 000 candidats. Difficile effectivement de se rendre bien compte de la répartition qu'il y a entre ces candidats, entre la majorité et l'opposition. Mais de ce que j'ai pu lire et comptabiliser au niveau des différents partis politiques qui ont adhéré à l'une ou l'autre plateforme, on peut arriver à dire de manière très claire, sans ambiguïté, sur les 18 000, il y a plus ou moins 12 000 candidats qui se réclameraient de la majorité présidentielle et 6 000 qui se réclameraient de l'opposition. Uniquement sur base de ces chiffres, donc on peut, de manière mathématique, imaginer avec le contexte, comme je viens d'expliquer par rapport aux enjeux présidentiels, que lié aux moyens utilisés, lié à la question de la violence et lié à la question de la géopolitique et ensuite lié au contexte donc du processus politique congolais, on peut imaginer de manière sans ambiguïté que le président sortant va sortir vainqueur de ces élections comme ils sont organisés au premier tour. Et pour ce qui concerne les législatives, avec la proportion que je viens de vous donner, c'est-à-dire 12 000 candidats qui se réclament de la majorité parlementaire, de la majorité présidentielle et 6 000 de l'opposition, et avec les résultats, quand je combine avec les résultats de 2006, je pense que les dés sont jetés, que pouvoir actuel va se consolider en 2000 suite à cette élection. Donc on aurait le président Kabila qui sortirait vainqueur de ces élections et aura, je pense, avec les proportions que je viens de donner, aura certainement une majorité au Parlement à l'issue de ces élections. Donc on aura une espèce de fonctionnement avec un système donc monopartiste au sein du Parlement.
Professeur, je reprends la réaction de Cédric de Dungu en province orientale que j'ai lu dans le sommaire qui dit à observer la manière dont le déploiement de kits électoraux se fait, il y a des indices qui démontrent que les élections du 28 novembre 2011 pourraient se passer en deux jours. Le respect même de l'organisation des élections à la date prévue est un enjeu majeur.
Vous avez tout à fait raison et l'auditeur a tout à fait raison. J'ai même eu des contacts avec des gens qui sont à Baraka, donc dans le territoire de Fizi, qui me disaient que les kits électoraux étaient arrivés à Baraka, mais que les bulletins n'étaient pas encore arrivés dans cette circonscription. Ce qui veut dire que la loi électorale, elle est très claire dans ses dispositions légales, dit effectivement que tout doit être prêt 48 heures avant les élections. 48 heures, c'est-à-dire demain. Alors si à Baraka, donc à Fizi, donc dans le sud Kivu, les bulletins de vote ne sont pas encore arrivés dans les bureaux de vote répartis dans les différents bureaux de vote, je crains très fort que l'on va arriver à avoir une espèce de cacophonie dans certaines circonscriptions si la CENI n'arrive pas à réévaluer son calendrier en fonction du contexte et des problèmes des logistiques au niveau local. J'ai lu sur Radio Capi de manière très claire qu'il y a beaucoup de problèmes logistiques pour déployer le matériel, des camions qui tombent en panne, des camions qui n'arrivent pas au bout, on ne retrouve pas de bureaux de vote, on ne retrouve pas de centres de compilation, on ne sait pas où ils sont situés. Toute une série d'indices comme ça qui nous fait craindre que le 28 novembre, nous risquons d'avoir une élection, malheureusement, s'il est organisé ce jour-là, un peu bâclée, et ce qui aura comme répercussion, bien sûr, nous savons très bien que beaucoup de candidats commencent, avant même les élections, à contester les résultats sur base d'une série de problèmes. Et donc on peut craindre que le fait que l'élection se passe dans un contexte précipité et mal préparé risque d'accréditer la thèse de la contestation. Merci. Et la thèse de revendiquer la tricherie lors des élections du 28.
Professeur Edika Mbokolo, vous avez publié, je le disais également en début d'émission, un livre collectif intitulé « Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives ». Le fait de réduire le nombre de tours de 2 à un seul tour, professeur, ne poserait-il pas un problème de légitimité par rapport au futur président de la République?
Si, c'est évident que ça pose un gros problème de légitimité, parce que le système à deux tours qui n'est pas le meilleur, hein, il n'est pas le meilleur parce que ça contribue aussi à crisper la vie politique et à introduire dans certains pays, le professeur, mon collègue Komi Toulabor parlait tout à l'heure de la France, a créé tous les cinq ans un climat de guerre civile politique. Donc il n'y a pas de système électoral qui soit l'idéal. Bon, deux tours c'est bien parce que ça permet de dégager quelqu'un qui a 50%, même si nous savons qu'entre les deux tours, on l'a vu en 2006, il y a des marchandages extrêmement laborieux qui quelquefois conduisent l'opinion publique à des sortes de réactions de rejet par rapport à la classe politique. Je ne veux pas citer des noms, mais en 2006, on a vu des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec Joseph Kabila, qui lui ont donné leur voix, et les gens ont été très surpris par ça et disaient, on sait pourquoi ça se passe, c'est à cause de l'argent. Donc, le problème dans cette élection à un tour, c'est plusieurs problèmes. C'est d'abord, quel sera le taux d'abstention? Selon que nous aurons 10% ou 30% d'abstention, eh bien, ça donnera pour le vainqueur une capacité de représentation qui peut passer de un tiers des électeurs à 10% des électeurs. Donc ça, je pense que ça sera un premier indicateur extrêmement fort. Et ce que nous avons dit tout à l'heure sur le mélange de passion, mais en même temps de discipline, comme on l'a vu lorsque Kabila et Tshisekedi étaient dans deux villes identiques, ça peut laisser espérer que le taux de participation sera un taux suffisamment élevé pour que celui qui sortira le premier ait un nombre de voix et donc une légitimité qui soit à peu près acceptable. Mais je vous signale que en Angleterre, où le système est un système à un tour, on a des partis qui ont la majorité à la Chambre des députés sans avoir la majorité dans le pays. Donc, prenons le mode de scrutin comme il est, on ne peut pas revenir dessus. Là où moi je vois un problème, et je ne suis pas tout à fait en accord avec mon collègue et ami Bob Kabamba, je ne suis pas sûr que les jeux soient faits
à l'avance.
Je ne suis pas sûr parce que en 2006, nous avions deux éléments importants. Le premier, c'est que Étienne Tshisekedi n'avait pas été candidat, et je pense que ça a joué beaucoup sur la nature des résultats. Et nous avions Gizenga qui était candidat. Ça a joué aussi beaucoup, notamment entre les deux tours. Cette fois-ci, Gizenga est absent, Tshisekedi est candidat, et je dirais que Jean-Pierre Bemba n'est pas candidat. Donc, la donne est, me semble-t-il, entièrement nouvelle.
Le champ est ouvert.
Le champ est ouvert. D'autant plus que Vital Kamerhe, dont on connaît le rôle dans la victoire de Kabila en 2006, est passé dans l'opposition. Et donc, lui aussi peut, notamment dans l'Est, dont parlait Kabamba tout à l'heure, où il y avait eu un apport massif de voix pour Kabila, on peut penser qu'il y aurait une érosion de voix pour lui à l'Est. Et donc, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir un jeu assez serré au niveau des présidentielles et sans doute une dispersion habituelle au niveau des législatives.
Alors, professeur, par rapport au taux d'abstention auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, prenons l'hypothèse où il était faible. Quelle analyse on pourrait faire à ce moment-là?
Si le taux d'abstention est faible, disons autour de 10%, ça voudrait dire que du côté du peuple congolais, il y a une adhésion au jeu démocratique, donc un enrichissement de sa culture politique. Et dans ce cas, je dirais que si l'un des candidats a 45%, il ne serait pas loin de la moitié du corps électoral. Mais si avec ce taux faible, le premier candidat qui sort avec les poids lourds que nous avons sort seulement avec 30% des voix, là on aurait un très 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 gros problème parce qu'il représenterait à peine un quart de l'électorat. C'est beaucoup dans un pays comme le nôtre, avec tous les problèmes géopolitiques et autres que notre collègue de Belgique a évoqué tout à l'heure en commençant.
Professeur Komi Toulabor, on sait que généralement en Afrique, l'opposition, sans exagérer, évidemment de ma part, l'opposition a deux options. Soit elle boycotte les élections, soit elle y prend part et refuse d'accepter les résultats. Qu'est-ce que vous envisagez comme enjeu par rapport à la RDC?
Ouais, tout d'abord, je pense que le mode de scrutin compte énormément dans une élection. Bon, vous avez plusieurs modes de scrutin. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'insisterai là sur le nombre de tours qui donnerait plus de légitimité. Et quand on a deux tours ou un tour, bon, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire mon collègue Elikia. Mais je constate que dans les autres pays ou dans d'autres pays africains, vous avez des élections, des scrutins à deux tours, notamment au Burkina Faso, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Djibouti, Mauritanie, etc., etc. Mais quand on regarde un peu comment fonctionne le scrutin dans ces pays-là lors des présidentielles, c'est que bon, rarement on va au second tour. Et à côté, par exemple, au Congo-Brazzaville, à côté, bon, ben, Sassou Nguesso n'a jamais eu à affronter un second tour. Il a toujours gagné. Donc, quelque part, le problème dans la pratique électorale des pays africains, d'une façon générale, que ce soit à un tour ou à deux tours, ne pose pas vraiment problème. Mais par contre, le problème de la légitimité est posé. Parce que quand vous êtes élu avec un faible taux de participation, ben, pose le problème de votre légitimité, mais en interne. Mais par contre, en externe, et c'est là que joue le problème de la légitimité de nos élections en Afrique d'une façon générale, parce que bon, on a l'impression que les élections organisées dans beaucoup de pays africains servent à la consommation extérieure, servent à légitimer quelqu'un qui a été déjà adoubé par ce qu'on appelle la communauté internationale et que l'électeur est là juste pour apporter un semblant de caution à cet adoubement. Donc ça fausse complètement le jeu électoral. Donc l'électeur africain lambda n'existe pratiquement pas. Et par contre, on a besoin de son bulletin de vote parce que sans bulletin de vote, il n'y a pas d'élection. Et on peut faire tout ce qu'on veut avec son bulletin de vote, changer, truquer, etc. Et là, tout, je dirais, l'enjeu des élections en Afrique, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'électeur africain qui n'existe pas, en fait, dans la réalité.
Professeur, vous avez pratiquement répondu déjà à la question de cet auditeur, Philemon Lukombo, là de Goma, en Nord-Kivu, qui disait « Je m'adresse à nos professeurs et invités du jour, compte tenu de l'hypothèse selon laquelle en Afrique, voter est une formalité, le choix d'un dirigeant est fait par les Occidentaux. Cela veut dire que l'Occident a pris la place du peuple. Si cela est vrai, quel serait le rôle du peuple congolais lors de ces élections ?» En fait, vous dites que en Afrique, les élections, c'est pour la consommation extérieure. Y a-t-il des pays africains qui pourraient faire exception, professeur?
Oui, tout à fait. Il y a des pays africains qui font exception, c'est-à-dire des pays africains où les élections peuvent être qualifiées de acceptables. Je mets des guillemets. Je prends le cas du Ghana, je prends le cas du Niger, du Mali, de l'île Maurice, du Botswana. Il y a certains pays qui arrivent, malgré le contexte difficile, le contexte institutionnel, etc., arrivent quand même à organiser des élections acceptables. Donc, pour ces pays-là, la légitimité interne a beaucoup plus de poids que la légitimité externe.
Professeur, il y a cet auditeur Mabélène des côtés de Harou dans la province orientale là, qui dit « La CENI doit mettre en œuvre toutes ses dispositions en déployant des agents compétents pour éviter la tricherie pendant et après les dépouillements du scrutin des élections du 28 novembre 2011. » Je reviens, professeur, sur l'aspect d'acceptation des résultats. Souvent, les résultats ne sont pas acceptés, ça donne lieu à des violences. Est-ce que c'est pour être évité ce genre de situation?
Ouais, tout à fait. Ben, pourquoi des pays qui ont un même niveau institutionnel, comme le Ghana, le Bénin ou le Mali, arrivent à organiser des élections plus ou moins acceptables et que d'autres pays qui ont le même niveau institutionnel n'arrivent pas? Il me semble que là, il y a une question de la volonté des élites, de la classe politique elle-même. Est-ce que les élites de la RDC sont d'accord pour organiser, avoir des compromis pour organiser des élections acceptables? Et ça, bon, ce n'est pas évident. Dans d'autres pays, on a les élites qui sont d'accord, qu'il y a un consensus au niveau des élites qui disent, ben, nous allons organiser des élections transparentes et crédibles. Et ceci se ressent au niveau de la CENI de ces pays-là. Quand vous prenez la CENI du Mali, du Niger, etc., ce que vous constatez, c'est que la CENI de ces pays-là ne sont pas des CENI partisanes. Ce sont des CENI, je dirais, techniques qui sont là pour organiser techniquement des élections, parce qu'une élection est politique, mais l'organisation est technique. Or, on met dans les CENI de certains pays des membres uniquement pour leur appartenance partisane. Et ça fausse complètement le jeu. Alors, bon, à partir de ce moment, les résultats qui seront proclamés risquent de ne pas être acceptés par d'autres parce que, bon, ils n'ont pas le quorum à cette CENI-là. Alors, bon.
Avant de donner la parole au professeur Bob Kabamba, professeur Komi Toulabor, il y a Fabien Kasonga de Kinshasa qui dit « Les enjeux pour moi sont ceux de la sécurité nationale qui donne à tous un climat de paix, précurseur du développement intégral. Professeur, vous préparez un ouvrage sur les fraudes électorales en Afrique. Cela peut-il être évité ?»
Ouais, je dis les fraudes peuvent être évitées en Afrique. Tout d'abord, il faut aller en amont de ces élections. Moi, ce qui me frappe, comment se fait-il que dans certains pays, on arrive à organiser en amont déjà des listes électorales crédibles et que dans d'autres pays, on n'arrive pas? Parce que, bon, je prends le cas du Ghana. Ben, le Ghana n'a pas un état civil aussi crédible que plus crédible que celui de la RDC. Mais comment se fait-il que ces pays-là arrivent à organiser des listes électorales qui soient acceptées par les partis politiques? Ça veut dire que, bon, il y a quelque chose que peut-être la RDC ou le Togo, etc., peuvent apprendre de ces pays-là. Comment vous faites-vous pour réussir des listes électorales qui soient acceptées par toute la classe politique? Bon, à partir de là, ben, découle tout un tas de conséquences jusqu'à la proclamation des élections où on dit, ben, nous avons accepté les listes électorales au départ, on dit que c'est crédible. Ben, les résultats, bon, avec une CENI techniquement compétente qui n'a pas de parti pris politique, ben, les résultats, bon, sont là, nous acceptons. Mais c'est pas évident. Parfois, c'est contesté aussi. Au Ghana, les dernières élections ont été contestées. Au Bénin aussi. Et donc, le problème est toujours là. Mais d'une façon générale, dans certains pays, les élections sont plus acceptées que dans d'autres.
Professeur Bob Kabamba, vous avez suivi le professeur Komi Toulabor et Edike Mbokolo. Comment vous réagissez?
Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup. Je voudrais souligner sur la question où, quand j'ai parlé effectivement, que pour ma part, sur les questions que les jeux étaient faits, c'est pour la bonne et simple raison qu'au niveau présidentiel, on n'est pas dans la même catégorie. Il y a un candidat sortant qui dispose au fait des moyens, qui fait une campagne avec des moyens d'État, ce que les autres n'ont pas. En 2006, effectivement, vous aviez, bien évoqué le professeur Elie Mbokolo, que je salue au passage, le fait de Jean-Pierre Bemba qui était effectivement candidat, mais avec des moyens d'État. Quand je dis moyens d'État, ça veut dire moyens financiers, ça veut dire utilisation d'une capacité claire de pouvoir disposer des outils d'État pour mener à bien une campagne électorale. Cette fois-ci, il n'y en a qu'un candidat qui est soit en mesure de pouvoir utiliser ces différents moyens, qui est le président sortant. D'autre part, comme je vous l'ai dit, le vote étant ce qu'il est avec le contexte régional, je ne fais que faire des calculs électoraux, calculs simples, en fonction donc des résultats de 2006. C'est ce qui m'amène à dire effectivement que les jeux sont faits. Par rapport à la question liée aux élections législatives, là aussi c'est très clair, pour la bonne et simple raison que la majorité parlementaire dispose de plus de candidats que l'opposition, aussi par le fait que quand vous voyez les affiches électorales, quand vous voyez la plupart des candidats qui font campagne, ils font campagne non pas sur le sigle d'un parti politique, mais ils font campagne en leur nom personnel. Les affiches, vous voyez le nom du candidat plus le slogan et bien sûr le slogan plus le numéro qu'il y a sur le bulletin de vote. Rarement vous avez des candidats qui ont mis leur parti politique sur les affiches. Ça veut dire qu'ils font leur campagne électorale en leur nom propre. Or, je vais plus loin dans les 12 000 candidats que j'ai recensés, que j'ai essayé d'analyser en fonction des différents profils. Il ressort que parmi les 12 000 candidats de la majorité présidentielle, une bonne partie représente les grandes communautés au niveau des circonscriptions. C'est-à-dire que, comme on a un vote communautaire au niveau législatif, donc de manière très claire, c'est ce qui me conduit à dire que au niveau de l'élection présidentielle, Kabila sortira vainqueur, et d'autre part, il aura une majorité au niveau des législatives. Alors, pour suivre par rapport à mon collègue Nkoukou Labour, qui a tout à fait raison quand il évoque effectivement que le cas de la RDC n'est pas un cas unique, ça, par rapport à quand je lis effectivement toute une série de publications qui ont déjà été faites sur les élections en Afrique et toute une série de bilans par rapport au processus de démocratisation en Afrique, on ne peut pas dire que ça soit différent de ce qui se passe ailleurs. Si je prends le cas de la Belgique, même si on n'a pas de gouvernement actuellement, et lorsqu'on analyse de manière beaucoup plus précise les chiffres, on remarque de manière aussi claire que les électeurs votent pour les candidats de proximité, c'est-à-dire pour les candidats qui pourraient le mieux les représenter au niveau national. Et donc, de cette façon, il y a une corrélation claire entre ce qui se passe dans le monde, quand on parle de démocratie et d'élections, et ce qui se passe aussi en Afrique et au Congo de manière générale.
Professeur Eli Kiambokolo, il y a deux auditeurs pour vous. Jérémy Kiambu de Kanyabayonga au Nord Kivu. Sans autant être prophète de malheur, ceux qui ont changé la constitution croyant en leur faveur d'un scrutin de deux pour un seul tour en tireront toutes les conséquences, étant donné cet acte n'était pas la volonté du peuple, il y aura risque de contestation, d'autant plus que l'on dira que le chef de l'État entrant n'est pas légitime, élu avec moins de 50%. Le scrutin à deux tours prouve à chaque candidat son niveau d'influence au pays. Réaction, professeur?
Non, la réaction, c'est très clair. C'est-à-dire que, de toute façon, quel que soit le vainqueur, si on reste sur les deux grands éléphants, Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila, de toute façon, il y aura des contestations parce que aucun des deux, je pense, on verra lundi, aucun des deux ne sortira avec plus de 50% au premier tour. Donc, il sera de toute façon le premier des sortants, mais je dirais, c'est comme si le premier aux 100 mètres aux Jeux Olympiques n'a pas réussi à égaler le record du précédent JO. Donc, ça sera, je dirais, un mauvais gagnant du point de vue des chiffres. Et du coup, nous n'avons pas encore parlé de... on a beaucoup parlé d'institutions, mais on n'a pas parlé de la culture politique des cadres congolais. Ce rapport très ambigu, très complexe vis-à-vis du pouvoir. On voit bien que depuis un an, il n'y a ni dans la majorité ni dans l'opposition un débat de fond sur l'état du Congo aujourd'hui, les enjeux politiques, les perspectives politiques. Dans ces élections, on n'a pas entendu une seule fois parler de la grande crise qui bouleverse l'économie mondiale, dans laquelle le Congo a une place extrêmement sensible et extrêmement fragile. Donc ça veut dire que, comme depuis l'indépendance, il y a cette frénésie de la course au pouvoir qui fait que le mode de scrutin va faciliter cela, parce qu'on contestera bien sûr de manière très très vive. Je pense que ça a été une faute de passer des deux tours à un tour et on risque de le payer cher. Et l'un des auditeurs qui dit que il faudrait revenir au scrutin à deux tours a probablement raison, d'autant plus qu'on verra bien si Joseph Kabila est élu, il ne pourra pas se représenter une troisième fois, et donc celui qui viendra la prochaine fois, on verra s'il aura le courage de revenir de un tour à deux tours. Je n'en suis pas sûr.
Mais professeur, en parlant de culture politique, vous déplorez l'absence de débat. Ne donnez-vous pas raison au professeur Bob Kabamba qui pense que le vote, ce vote également sera communautaire?
Le vote des députés sera, je n'aime pas le mot communautaire parce que ça renvoie à tribu. Je préfère l'autre formule qu'il a donnée, un vote de proximité. Je pense, on va voter au niveau législatif pour le gars ou la femme que l'on connaît, dont on connaît le niveau de formation, dont on connaît l'honnêteté, dont on connaît les projets, même dans les discours, si ce ne sont pas des projets de société, mais au moins il a des projets. En revanche, à l'échelle des présidentielles, on verra bien les enjeux politiques de 2006, notamment cette division entre Est et Ouest avec la question du centre. Je pense que ce ne sont plus les mêmes enjeux aujourd'hui à cause de la personnalité des différents candidats et on verra bien ce qui va l'emporter. Est-ce que ce sont les moyens financiers que les uns et les autres ont mis dans les élections? Ça n'est pas sûr parce qu'on voit bien que ceux qui ont moins de moyens que Joseph Kabila font de très belles campagnes dans lesquelles il y a un enthousiasme politique qui n'est pas négligeable.
Alors, professeur, y aurait-il probabilité des ralliements? Il reste presque trois jours ralliement au niveau des candidats à la présidentielle?
Il peut toujours y avoir des ralliements dans la ville de Kinshasa, beaucoup de gens le murmurent et le souhaitent, mais je pense que ça serait rendre très mauvais service à la démocratie, parce qu'on a eu plusieurs mois pour se mettre d'accord. Un ralliement au dernier moment, des ralliements au dernier moment, je pense que ça sera vraiment du plus mauvais effet et risque de démotiver et d'écœurer encore davantage une population qui attend que les hommes politiques aient une moralité, un savoir-faire et une crédibilité qui soit quand même, si possible, au-dessus de tout soupçon.
Voilà, il nous reste malheureusement moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Professeur Komi Toulabor, le professeur Elikam Bokolo dit qu'en cas de ralliement, ce serait rendre un mauvais service à la démocratie. Déjà en guise de conclusion, est-ce votre avis?
Oui, au dernier moment, parce que bon, on a tout le temps pour essayer de négocier, trouver des compromis, et ça n'a pas été fait, et on attend le dernier moment pour se rallier. Mais les électeurs, légitimement, ont le droit de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière le ralliement de dernière minute? Est-ce pour se vendre pour auprès du vainqueur éventuel, etc.? Donc, un ralliement de dernière minute pose beaucoup plus de questions que au début, alors qu'on avait tout le temps de le faire. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec Elikia.
Alors, dernière question pour vous, professeur. Le vote communautaire, le professeur n'aime pas le mot, il préfère de proximité. Le vote communautaire, est-ce qu'on peut s'en départir en Afrique?
Ouais, vous savez, bon, dans un vote, il y a plusieurs paramètres qui jouent. Il y a la proximité, l'identité, etc. Parce que le bulletin de vote, quand on va dans un bureau de vote, dans l'isoloir, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'électeur? Plein de choses que ce bulletin traduit. Donc, il y a plusieurs identités que le vote traduit, et proximité, tribal, etc. Bon, religieux, tout ça que le vote traduit. Et ça, bon, un bulletin de vote n'est pas significatif, mais un ensemble, un panier, bon, on peut traduire plein de choses, déduire plein de choses du vote.
Merci, professeur. Professeur Bob Kabamba, juste un mot en guise de conclusion.
En juste de conclusion, je dirais que s'il y a ralliement des candidats de l'opposition à la majorité, ce serait un véritable recul de la démocratie en RDC.
Merci, professeur Elikam Bokolo.
Ben, d'accord aussi. Surtout pas de ralliement, que chacun soit responsable jusqu'au bout de cette candidature qu'il a voulu maintenir.
Et surtout appeler à l'apaisement et à la paix.
Oui, il faut appeler à l'apaisement parce que, je dirais, il ne s'agit que d'une élection. Rien ne va changer le 29 novembre à 4h du matin. Il va falloir continuer à se battre et continuer à se battre pour que l'état de droit et la démocratie l'emportent au Congo.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, à Paulin Mwinkiewa, à Kelly Nkouté qui ont préparé cette émission avec moi. Merci également à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Présentation et coordination, Alain Hiroumouchinge. Au revoir.